Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Kapi, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, surtout dans sa partie ouest, sont sans eau de la régie des eaux depuis ce lundi. Situation consécutive à la poursuite des travaux dans l'usine de la régie des eaux située au quartier Ozone dans la commune d'Engalima. Cette société de distribution d'eau précise que cette situation durera un jour, mais il faudra quelques heures additionnelles avant que l'usine ne soit mise en service. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce dimanche une réunion de l'Union sacrée de la Nation, sa plateforme politique, quelques jours après la sortie du gouvernement Souminois 2. Objectif, renforcer la cohésion et la transparence au sein de la majorité présidentielle. Notre invité ce midi est le directeur national du programme d'élimination de la lèpre, Dr. Florent Ngondou Lobuta. Affirme que toutes les provinces notifient les cas de lèpre et appellent à une mobilisation générale pour éradiquer cette maladie au pays d'ici 2030. Bonjour à tous, ici à Kinshasa pour commencer. L'eau ne coule pas des robinets dans certains quartiers à partir de ce matin. L'alerte a été donnée déjà par la régie des eaux dans un message parvenu à Radio Kapi le samedi. Il s'agit des quartiers Ozone, Kamunganga, Gramalik, Météo, Mpunda, Delvo, Upen, Sangamamba, Kingu, Pigeon, Makampagne, Montfleury, Jamaïque et Nganda. Cette interruption concerne également les communes de Bandalungwa, Kitambo, Ngiringir et une partie de Silimbao. Et pour cause, la poursuite des travaux du module 3 de son usine située au quartier Ozone dans la commune d'Engalima. D'autres détails avec vous, Jude Mister Bilanda.
La régie des eaux indique qu'elle veut mettre ses modules sous tension électrique pour la mise en marche des pompes et autres machines. Deux nouveaux transformateurs seront installés à partir de ce lundi 11 août. Et pour que ces travaux s'effacent, la régie des eaux prévoit une interruption du courant électrique à partir de l'usine jusqu'au mardi matin. Ces travaux dureront environ un jour, mais il faudra quelques heures additionnelles avant que l'usine ne soit mise en service et ne permette à l'eau de voyager dans tous les réseaux. La régie des eaux renseigne qu'elle a pris des dispositions pour donner de l'eau par camion-citerne sur commande. Elle demande aux abonnés d'avoir des stocks suffisants pour répondre à leurs besoins. Elle rassure qu'elle fera de tout son mieux pour terminer les travaux à temps et rétablir la situation le plus tôt possible.
Jude Mister Bilanda Nkumar. Pendant ce temps, la lutte contre le choléra s'accélère à Kindo-Maniema. Pour preuve, la zone de santé de cette ville vient de lancer une double opération, à savoir la chloration des sources d'eau et la désinfection des ménages frappés par l'épidémie de choléra. Objectif, couper la chaîne de transmission de cette maladie, comme le signale le ministre provincial de la Santé qui a lancé cette opération aux côtés de ses partenaires techniques et financiers, dont l'OMS et l'UNICEF, à partir de la source Pampela. Florence Kizalunga nous appelle de Kindo.
Pour les médecins chefs des zones de Kindu, l'opération de chloration d'eau consiste à couper la chaîne de transmission des choléra. Docteur Salin Djoumaïni Farani.
Nous mettons vraiment les chlorateurs qui ont été formés par la zone de santé, les gens qui sont expérimentés, pour que ces gens commencent déjà à traiter de l'eau que les gens doivent quand même commencer à boire.
Les chlorateurs demandent à toute la communauté de ne pas rentrer avec l'eau sans être chlorée. Ibrahim Kibundi Labertan.
Nous recommandons aux mamans chlorer cette eau. Il faut que chaque maman qui arrive avec son bidon, il faudrait qu'on mette des chlores à l'intérieur de son bidon.
Bien que l'eau est chlorée, la population de Pampela plaide pour la construction de leur source d'eau. Suzanne Amissi.
Nous remercions parce qu'on vient de mettre nos médicaments. Mais notre plaidoyer, c'est de nous construire notre source parce que dans cette contrée, cette source nous sert de tout.
Conscient, le ministre intérimaire de la Santé promet de saisir le autorité provinciale. Signalons que la province d'Imanema notifie déjà plus de 4000 cas avec une centaine de décès. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans le même registre, cette fois-ci au nord Kivu, dans la cité frontalière de Kassine-Loubiria, située à 80 km de la ville de Beni, plusieurs quartiers sont privés d'eau potable après l'endommagement des réseaux d'approvisionnement. Selon la société civile locale, ces dégâts sont liés aux travaux de nivelage réalisés dans le cadre de l'entretien des routes, notamment dans les quartiers latins, Mwangaza et Kongoyasika. Ce manque d'eau fait craindre une résurgence des maladies hydriques dans la région. La société civile appelle les autorités à agir rapidement pour réhabiliter ces réseaux. Paul Zaidi, premier rapporteur de cette structure, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
puisque plusieurs tuyaux sont endommagés en ces jours et que si rien ne sera fait dans l'urgence par les autorités politico-administratives, mais également par ses partenaires qui est en train d'être payé pour entretenir les réservoirs de Kassindi. Kassindi Lubiria risque de connaître encore une pénurie d'eau potable, alors que vous n'êtes pas sans savoir que Kassindi est une entité post-choléra, est une entité post-Covid-19, est une entité post-Ebola. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y aura la pénurie d'eau potable dans les robinets, cela poussera la population de consommer encore une fois de plus l'eau de la rivière Lubiria qui ne bénéficie pas d'un traitement avant la consommation de cette eau. Donc, c'est-à-dire, nous craignons vraiment la résurgence des maladies d'origine hydrique, mais également, nous appelons aussi l'association des consommateurs d'eau potable de Kassindi puisse entrer en contact avec cette ONG ADER pour leur donner la cartographie du réseau des tuyaux dans notre entité.
Contactez le délégué du gouverneur dans la région, dit être au courant de la situation et assure que les discussions sont en cours avec les techniciens de l'entreprise chargés de l'entretien des routes pour la réhabilitation des réseaux d'approvisionnement endommagés. La santé est aussi concernée dans le cadre du processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Plus de 600 millions de dollars seront mis à la disposition de plusieurs pays de la région pour la production notamment des vaccins et des médicaments. Cette annonce a été faite ce dimanche par le directeur général du Centre africain des contrôles et des préventions des maladies, CDC. On écoute le docteur Jean Kaseya qui s'exprimait sur la chaîne nationale dans cet extrait choisi pour nous par Alain Rong Mouchinge.
Je veux aussi annoncer que dans le cadre du programme de la paix entre la RDC et le Rwanda, nous avons inscrit un volet important de santé publique pour l'investissement en RDC et dans certains pays régionaux des mécanismes pour produire les moustiquaires, les vaccins, les médicaments. Ce sera un investissement de plus de 600 millions de dollars qui sera garanti par DFC qui est la banque des États-Unis pour les investissements privés. Donc, nous sommes vraiment sur tous les champs. Le pays a fait un bon très qualitatif et je tiens à remercier le professeur Muyembe, que j'ai même nommé comme Special Advisor du DG d'Afrique CDC, et toute son équipe, professeur Mbale et autres. Aujourd'hui, la voix de l'Afrique dans la recherche est très importante. Nous avons plus de 40 projets de recherche et plus de la moitié de ces projets sont menés par aussi les collègues de la RDC, de l'INRB. Je peux aussi garantir que c'est important que le gouvernement mette aussi des fonds dans la recherche, puisque nous ne pouvons venir continuer à appuyer la recherche, mais on a besoin de voir que cette recherche fasse un bond.
Politique à présent. Quelques jours après la publication du gouvernement Soumino à deux, l'Union sacrée de la Nation, plateforme présidentielle, a tenu une réunion importante hier à Kinshasa. Présidée par le chef de l'État, cette réunion visait à renforcer la cohésion et la transparence au sein de la majorité présidentielle, selon son secrétaire permanent. André Mbata indique à la presse que plusieurs textes réglementaires de cette structure ont été examinés en prévision de son prochain congrès. Outre le présidium de l'Union sacrée, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables des partis et regroupements politiques affiliés à cette plateforme politique y ont participé. On écoute les explications du député national André Mbata dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium sous la présidence de la Haute Autorité Politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la Haute Autorité Politique sera à mesure de décider de la tenue du Congrès. Nous sommes une instance démocratique. C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la Nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise, nous attendons de l'entendre de la bouche même de la Haute Autorité Politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'Union sacrée de la Nation est derrière et soutient le gouvernement souminois 2 qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose.
Justement, le gouvernement Soumino a été publié le 8 août dernier. Avec 17 femmes sur 53 membres, ce gouvernement affiche une représentation féminine de 32% en légère hausse par rapport aux 31% du précédent exécutif. Une progression symbolique mais significative dans un paysage politique longtemps dominé par les hommes. Sa description est faite ici par Blaise Makassi.
Si aucune femme n'occupe les postes de vice-premier ministre, plusieurs d'entre elles sont à la tête des ministères stratégiques comme ministre d'État. Thérèse Kayikwamba conserve les affaires étrangères et la francophonie. Raissa Malou reste à l'éducation nationale. Eve Bazaïba prend les affaires sociales. Et Akasia Bandoubola hérite des hydrocarbures. D'autres figures féminines occupent des portefeuilles clés. Marie-Thérèse Sombo à l'enseignement supérieur universitaire et à la recherche scientifique. Marie Nyangé à l'environnement. Yolande Lébé à la culture. Onège Sélé aux affaires foncières, Julien Bouillot au portefeuille, Micheline Ombare et Kalama au genre et Grâce Emi Coutinho à la jeunesse. Les ministères délégués sont également dominés par des femmes. Arlette Bahati Tito à l'environnement et climat, Angèle Bangassa Yogo à l'urbanisme et Irène Sambo aux affaires sociales et handicap. Enfin, trois vice-ministres femmes complètent cette présence féminine dans les sphères stratégiques. Eugénie Tchela à l'intérieur, Noëlla Aïga Nagato aux affaires étrangères et Grâce Ayam Bakazadi aux finances.
Dans le chapitre sécuritaire, la série noire continue à Ituri. Des nouvelles attaques attribuées aux groupes armés ADF et CODECO ont fait 9 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Les faits se sont déroulés précisément à Boga, dans les territoires d'Irumu et Aïdina, dans le territoire de Djougou, dans la nuit de dimanche à ce lundi. Ces violences ont encore une fois provoqué le déplacement des populations et perturbé le trafic routier dans la région. Entre-temps, des voix s'élèvent pour dénoncer le manque d'anticipation des services de sécurité face aux menaces persistantes de ces groupes armés. Isaac Raymond.
La première attaque attribuée à la milice CODECO a eu lieu à Jina, à une quarantaine de kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Des miliciens ont investi une boutique, tuant 6 membres d'une même famille et blessant 4 autres personnes. Ils ont également emporté plusieurs biens et une trentaine de chèvres. Certains habitants se sont réfugiés à la base de la MONUSCO et d'autres se sont rendus vers Lopa et Iga Barrière. L'armée affirme avoir poursuivi les assaillants jusque dans leur bastion. À Boga, à une centaine de kilomètres aussi de Bounia, dans les territoires d'Irumu, ce sont les ADF qui ont attaqué le village de Kinyanjojo. Bilan, 3 civils tués, 3 jeunes filles enlevées, 3 véhicules et une maison incendiées selon des sources locales. Ces attaques ont fortement ralenti la circulation sur l'axe Bunia-Djougou de la route nationale numéro 27, ainsi que sur l'axe Bunia-Boga-Kainama vers le nord Kivu. Plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile expriment leur colère face à la recrudescence des violences. De son côté, l'armée affirme que des opérations sont en cours contre les ADF et les milices qui refusent de déposer les armes. Bunia, Isaac Moyope, Radio Kapi.
Encore un point noir, et cette fois c'est du côté de Binza, au nord Kivu. Au moins 8 personnes ont été tuées dans des circonstances différentes, puis enterrées ce week-end dans ces groupements situés dans les territoires de Rutshuru. Parmi ces civils, au moins 7 ont été tués le 8 août dans les champs à Kihito. Ces personnes seraient victimes de l'opération de traque des présumés FDLR menée dans la région. C'est ce que nous dit Lévin Mbwinga.
Ces derniers incidents interviennent alors que la population du groupement de Binza ne s'est pas encore remise de la perte d'au moins 300 civils tués dans les champs périphériques de cette entité coutumière au cours du mois de juillet dernier. Des massacres qui ont fait récemment l'objet de plusieurs rapports, dont celui de l'ONU. Selon nos sources à Nyamilima, le 8 août dernier, alors qu'ils se trouvaient dans leur champ dans le village Kihito, précisément dans le lieu appelé Buneza, entre Nyamilima et Ishasha, ces civils ont été surpris par des hommes armés présumés éléments AFC M23. Ces victimes, dont 5 scieurs de bois et 2 membres d'une même famille qui cultivaient leur champ, ont tous été tués par balles ou par armes blanches, disent nos sources. Par ailleurs, tôt le matin hier dimanche, vers 5h heure locale, c'est le corps sans vie du chef du quartier Kieka qui a été découvert dans l'agglomération de Nyamilima. Celui-ci aurait été victime d'une incursion d'hommes armés inconnus dans son domicile. Ces incidents accroissent l'inquiétude des populations dans cette zone du groupement de Binza. Dans cette zone, une opération de traque des présumés FDLR menée par l'AFC M23 a déjà causé de nombreuses victimes collatérales parmi les civils.
Actualité internationale.
Au moins 63 personnes sont mortes de malnutrition en une semaine à El Fechir, ville assiégée dans l'ouest du Soudan en guerre. 63 personnes sont mortes de malnutrition depuis le 3 août. La plupart sont des enfants et des femmes, déclare un responsable du ministère de la Santé. Ces bilans ne concernent que les personnes ayant pu atteindre l'hôpital alors que de nombreuses familles enterrent leurs proches sans soins, faute de sécurité et des moyens de transport. El Fechir, capitale du nord Darfour, est assiégée depuis plus d'un an par les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023.
L'invité.
C'est le directeur national du programme de l'élimination de la lèpre, Dr. Florent Ngondou Lobuta, confirme que toutes les provinces notifient des cas de lèpre et il faut une forte mobilisation de tous pour arriver à éradiquer cette maladie au pays d'ici 2030, comme le souhaite l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Docteur Florent Ngondou Lobuta s'entretient avec Florence Kizalonga.
Docteur Florent Ngondou, bonjour.
Bonjour madame.
Docteur, quelle est la situation aujourd'hui de la lèpre dans notre pays?
Ok, merci beaucoup madame pour la question. D'emblée de jeu, je vous dirais que la situation de la lèpre est encore préoccupante au niveau pays. Les chiffres que nous avons eus en 2024, les chiffres publiés par l'OMS, nous renseignent 3945 nouveaux cas de lèpre. Ça c'est pour l'ensemble du pays. Et quand on entre au niveau des provinces, donc toutes les provinces sont concernées. Il y a effectivement 9 ou 10 provinces qui ont beaucoup de cas. Mais les autres arrivent aussi avec un peu de cas.
Aujourd'hui, vous êtes au Maniema. Quelle est la situation de la lèpre ici?
Oui, Maniema, il faut dire que la situation de la lèpre, on peut dire qu'elle est stable. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 5 ans. Maniema dépiste environ une cinquantaine de cas. Et ça aussi, ce n'est pas vraiment la vraie situation parce que il y a d'autres zones de santé où les activités sont presque en veilleuse. Par exemple, il y a eu un petit projet mené en 2020 et 2022 qui était un projet de lutte intégrée lèpre, pian et brûlis. Et dans ce projet-là, on a vu que le dépistage de la lèpre est augmenté. Mais je suis sûr que si on élargit la prise en charge dans les 18 zones de santé, nous pouvons arriver à voir la vraie situation de la lèpre dans les Maniema.
C'est-à-dire, c'est confirmé que la lèpre existe encore dans la province du Maniema. Vous-même, vous venez de citer que vous avez mené un projet de la lutte intégrée des maladies de la peau. Alors, c'était dans des zones de santé, dont la zone de santé des Kasongo et de Lusangi. Des ans après, alors, qu'est-ce que ça va suivre parce que ça mérite d'être élargi?
Tout à fait. Cette lutte intégrée-là, après 2 ans de mise en œuvre, ça a montré que c'est possible qu'on puisse mener cette lutte. C'est comme ça que le partenaire, la mission contre la lèpre qui appuie ces projets, a mobilisé encore des fonds pour étendre. Il y avait le Kasongo et le Sang qui étaient concernés. Maintenant, on va avoir d'autres zones de santé, je crois 5 ou 6, qui seront aussi concernées par l'extension de ces projets-là.
Vous avez la recommandation de l'OMS d'ici 2030 qui est élimination de cette maladie au pays. Est-ce que vous pensez que ce sera possible?
Bon, c'est difficile vraiment de répondre à cette question, mais nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse y arriver. Mais pour y arriver, en tout cas, ça demande la conjugaison de nous tous. Parce que vous connaissez, actuellement, nous sommes dans un contexte où il y a la réduction des moyens pour ça. Alors, il faut faire des efforts pour qu'on puisse trouver, par exemple, dans la lutte contre la lèpre, les médicaments sont là. Mais ce qui nous manque, c'est les malades qui sont cachés au niveau de la communauté. Il faut qu'on les recherche, on les traite, et puis on peut espérer diminuer l'ampleur de cette maladie-là.
Avec le moyen, vous avez des défis. Aujourd'hui, là, les moyens sont réduits. Est-ce que ça ne sera pas alors l'occasion que cette maladie se propage davantage dans la communauté?
Mais effectivement, si nos gouvernants ne prennent pas en compte les problèmes actuels, eh bien, dans quelques années, on assistera effectivement à une recrudescence des maladies qui étaient encore maîtrisées. C'est ici l'occasion de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on soit sensible à mobiliser les fonds. Nous devons former les acteurs, travailler avec la communauté pour qu'on puisse retrouver ces malades, les traiter, puis les mettre en traitement. Là, on pourra espérer. Mais si le gouvernement reste inactif à tous les niveaux, ça ne sera pas possible.
La lèpre est classée déjà dans la catégorie des maladies tropicales négligées. Il y a certains qui se cachent avec cette maladie dans la communauté. Alors, quel serait votre appel aux membres de la communauté?
Voilà. En fait, la conception de la lèpre a très évolué. Quand on remonte les années passées, il n'y avait pas de médicaments efficaces pour lutter contre cette maladie. C'est comme ça qu'on isolait les personnes qui sont touchées par cette maladie dans des léproseries. Actuellement, il n'y en a plus parce qu'on a des médicaments qui sont efficaces pour rompre la chaîne de transmission. C'est comme ça que nous disons à la population, s'il y a quelqu'un qui a une tache claire sur la peau, c'est un motif d'aller se faire consulter au niveau du centre de santé. Et là, les médicaments sont là. Si c'est la lèpre, on va traiter la personne et la personne sera guérie. Donc la lèpre n'est plus comme à l'époque où les gens définissaient la lèpre comme une maladie incurable. Non, maintenant, la lèpre s'est guérie grâce aux médicaments que nous avons.
Docteur Florent Ngondou, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
L'invité du journal répondait aux questions de Florence Kizalunga. Il est exactement 13h20 à Lusangi, dans le Maniema. C'est la fin de ce journal, mis en onde par Billy Landry Betou. La coordination de Levin Mbwinga sous la supervision d'Alain Rung Mouchinge. À la présentation, Grâce Amzati. Merci.